Et le journal vous est présenté par Adrien Bossard. Bonsoir Adrien.
Bonsoir. Faut-il y voir les effets de la prochaine visite en France de Vladimir Poutine? Le français Philippe Delpal vient en tout cas d'être libéré de prison en Russie avec assignation à résidence. Il est accusé à Moscou d'être à l'origine d'une fraude. 75 ans après le débarquement de Provence, le devoir de mémoire d'Emmanuel Macron à la rencontre des anciens combattants, les survivants. Il demande aussi au maire d'honorer les soldats africains avec des noms de rues, de places publiques également. La France, bonnet d'âne du classement des universités établies par Shanghai, ou du moins très loin derrière les prestigieux établissements américains, Harvard en tête. Les champs de lavande dans le Vaucluse pris d'assaut par les touristes l'été, leur mauve très appréciée des Chinois. Les producteurs mettent en garde contre les incivilités.
France Inter.
Il va passer la nuit chez lui pour la première fois depuis 6 mois. Le banquier français Philippe Delpal, incarcéré à Moscou, vient d'être libéré par la justice russe à quelques jours seulement de la visite en France de Vladimir Poutine. Mais il est assigné à résidence, lui qui est accusé en Russie d'être à l'origine d'une fraude d'au moins 2 milliards de roubles, environ 33 millions d'euros, ce qu'il conteste et il entend bien profiter de sa liberté pour préparer sa défense avec ses avocats, j'en dis.
À quelques jours de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à Brégançon, la justice russe a effectué un revirement inattendu. Elle a décidé d'assigner Philippe Delpal à résidence, chose qu'il réclamait sans succès depuis son arrestation en février dernier. Cela lui avait même été refusé lors d'une audience début juillet, alors qu'il venait d'acquérir un appartement à Moscou pour démontrer à la justice qu'il n'avait pas l'intention de quitter la Russie avant la tenue de son procès. Il n'est toutefois pas autorisé à sortir de chez lui et ne peut s'entretenir directement qu'avec ses proches, ses avocats et les enquêteurs. Il reste en effet poursuivi dans une affaire de fraude portant sur un montant de 33 millions d'euros qu'il dénonce. De sources diplomatiques, on sait que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont évoqué plusieurs fois le sort du banquier français. S'il est possible d'y voir un geste avant la rencontre de lundi entre les deux présidents, Philippe Delpal reste déterminé. « Ma vie est à Moscou, fuir n'est pas une option car cela signifierait reconnaître que je suis coupable », a-t-il déclaré lors de l'audience. Moscou, Jean-Didier Revoin. France Inter.
Un accord européen trouvé pour la prise en charge des 147 migrants bloqués depuis plusieurs jours sur le navire de l'ONG espagnole Open Arms. Ils sont actuellement au large de l'île italienne de Lampedusa et seront accueillis dans 6 pays, la France, l'Allemagne, le Portugal, la Roumanie, le Luxembourg et l'Espagne. Le bateau va donc pouvoir accoster prochainement, lui qui est désormais autorisé par la justice italienne à naviguer dans les eaux territoriales de l'Italie. Lui est bloqué depuis plus d'un mois, depuis le 4 juillet, précisément à Gibraltar. Le pétrolier iranien a aujourd'hui l'autorisation de repartir en mer. La Cour suprême gibraltaise lève l'ordre d'immobilisation du bateau malgré la demande expresse de blocage formulée en début d'après-midi par les États-Unis. L'Iran apporte par écrit la garantie que le pétrolier n'est pas destiné à ravitailler la Syrie, frappée par un embargo de l'Union européenne. Pékin ne restera pas les bras croisés si la situation devient incontrôlable à Hong Kong. Déclaration de l'ambassadeur chinois à Londres, alors que ce matin, des soldats se sont rassemblés à quelques kilomètres à peine de la frontière. Des blindés sont également aperçus, laissant planer le risque d'une intervention militaire de Pékin sur le territoire autonome. La situation au Cachemire, elle, à l'ordre du jour demain du Conseil de sécurité de l'ONU. Séance à huis clos pour évoquer la révocation du statut d'autonomie de cette région. Décision la semaine dernière de l'Inde pour placer sous une tutelle plus directe le Cachemire, revendiqué également par le Pakistan.
Le journal de 18h sur France Inter.
L'appel d'Emmanuel Macron lancé aux 35 000 maires de France lors des commémorations du 75e anniversaire du débarquement de Provence. Il les invite à honorer les combattants africains en donnant leur nom à des rues, des places ou des monuments. Des héros de la libération qui n'ont pas la gloire ni l'estime qu'ils méritent selon le chef de l'État. Cérémonie marquée à Boulouris aussi par des échanges entre Emmanuel Macron et des survivants de ce débarquement, Olivier Martoc.
Pour les anciens combattants présents à ce 75e anniversaire, le moment fort, c'est quand Emmanuel Macron vient, à la fin de la cérémonie, échanger quelques mots avec eux.
Vous avez su jusqu'au bout?
Ah oui, jusqu'au bout, oui. Jusqu'au 8 mai 45.
De l'héroïsme.
Merci.
Je suis le président, ancien résistant, engagé dans l'armée de l'attentat Sini. J'ai fait toute la campagne de France, l'Allemagne,
oh là là,
et l'Autriche.
Vous avez quel âge?
Ah, j'ai 94 ans. Alors j'étais pas vieux quand je suis parti, à peine 18 ans.
Merci pour votre héroïsme.
Ils étaient une dizaine présents aujourd'hui dans ce cimetière, moyenne d'âge 98 ans, Richard Imbert, très ému, se félicite que le président de la République propose aux maires d'honorer par des noms de rue les combattants africains morts sur le sol français.
Je comprends parce que j'en ai connu qui sont morts en criant « Vive la France ». Il y a eu la guerre, tout ça. Et arrivé à Stuttgart, le capitaine fait le bilan, prend le contrôle nominatif de la compagnie et dit « Ah ben tiens, celui-là il est mort, celui-là... Sur les 170 tirailleurs tunisiens qui étaient à l'effectif de la compagnie au débarquement, il en restait deux. »
Boulouris, Olivier Martoc, France Inter.
L'incendie désormais fixé ce soir dans l'Aude au sud-est de Carcassonne, mais les 510 pompiers mobilisés au sol depuis hier pour lutter contre les flammes le resteront jusqu'à la tombée de la nuit pour prévenir toute reprise éventuelle du feu. Depuis hier, 700 hectares de végétation sont partis en fumée, obligeant l'évacuation de 22 personnes dans un gîte viticole. Un Allemand expulsé de France avant le G7 à Biarritz dans 10 jours, un activiste d'ultra-gauche considéré comme une menace potentielle. Le ministère de l'Intérieur émet à son encontre une interdiction administrative de séjour. Pas de changement. En tête du classement, Harvard est toujours la meilleure université du monde pour la 17e année de suite, selon le classement de Shanghai dévoilé chaque été. Les 10 premières places, elles, sont trustées par des universités américaines. Fabien Cazot.
Oui, très nette suprématie encore des grandes universités américaines, avec en tête Harvard puis Stanford. Les critères retenus sont notamment le nombre de publications dans certaines revues scientifiques, la manière qu'ont les universités de faire avancer la connaissance, ou alors le nombre de prix Nobel ou de médaillés Fields qui sont issus de leur rang. La première université française à la 37e place du classement, c'est Paris Sud Saclay, présidée par Alain Sarfati.
C'est un sentiment de fierté, bien sûr, qui nous anime quand on est comme ça, bien classé par quelque chose qui est vu mondialement. Mais c'est vrai qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de recul. Les classements se basent sur un certain nombre de critères, ils sont plus ou moins pertinents. Et je dirais que le classement de Shanghai, finalement, s'appuie, et ça je crois que c'est reconnu, sur des données qui sont relativement objectives. Il n'a pas vocation à juger la qualité d'une université sur l'ensemble de toutes ses missions, ça c'est vrai. Mais sur l'avancée des connaissances, qui est quand même un des points extrêmement importants pour les universités, il y a une certaine pertinence et une cohérence dans ce classement d'une année sur l'autre.
L'enjeu de ce classement, c'est bien la visibilité à l'international. Il y a donc un match dans le match entre universités françaises. Juste derrière Saclay pointe l'université Paris-Sorbonne. En tout, 21 établissements français figurent cette année parmi les 500 premiers mondiaux.
Fabien Cazot, chef du service éco de France Inter. C'est un symbole de la Provence que l'on surnomme aussi l'or mauve, la lavande, une plante très prisée des touristes, notamment les Chinois. Beaucoup ne viennent dans le sud de la France l'été que pour elle, pour la prendre en photo, voire en rapporter dans les nombreux champs du Vaucluse, comme dans le village de Sceaux, où les rangées rectilignes de fleurs bleutées sont envahies, aux grandes dames des producteurs Jean-Michel Leray.
Cette jeune Chinoise en robe blanche et grand chapeau à ruban fait la pose au milieu d'un champ de lavande.
La couleur violet, c'est super joli d'abord. Et après, j'aime bien qu'on fait la photo comme ça, c'est super.
Ramener des souvenirs en Chine?
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'Asiatiques. Ils aiment bien aller en Provence pour faire la photo comme ça, lavande, avec une petite robe blanche comme ça.
Du blanc sur fond bleu, qui fait parfois faire grise mine aux producteurs de Sceaux comme Alain Malavar.
Hier soir à 19h, c'était encore plein de touristes, de Chinois, de ça, qui étaient dans le champ en prendre des photos. Bah, ils piétinent un petit peu, oui, c'est vrai. Alors, on ne peut pas aussi chasser tout le monde parce que la lavande, c'est vrai que ça fait venir des touristes, ça fait travailler le commerce local. Où je suis moins tolérant, c'est ceux qui coupent les fleurs pour les emporter. Hier soir, j'en ai grondé une qui... c'était une Italienne. Peu importe la nationalité, il y a des quelques personnes qui ne respectent pas forcément la culture, pour dire de faire attention quoi, parce que ça commence à devenir un problème.
Reportage de Jean-Michel Leray de France Bleu, Vaucluse. Justement, en Provence demain, ce sera pas mal pour la météo, Élodie Calac.
Plein soleil sur toute la moitié sud, avec un petit bémol quand même pour l'Aquitaine, quelques nuages ou brouillards le matin. Pour le vent, un cran en dessous sur le sud-est, Mistral et vent d'ouest pardon, sur le sud de la Corse vont quand même résister. Et puis au nord, ce sera quand même plus nuageux. Alors sur les régions voisines de la Manche, ce sera même encombré avec quelques brouillards le matin. Et puis l'après-midi, du vent, parfois une ondée à l'approche d'une perturbation avec de bonnes pluies sur le Finistère.
Côté température,
ça monte, 19 à 24 degrés près de la Manche, les 19 degrés à Brest sous la pluie et ailleurs sur les régions du Nord, 24 à 28 degrés et 28 à 33 au Sud.
Élodie Calac de Météo France.